Bonjour à tous. On va poursuivre toujours dans l'Épître aux Hébreux. Mais avant, on va demander au Seigneur encore une fois qu'il puisse nous accorder la vie de sa parole, pas juste de l'information. Fait que, Seigneur, tu nous dis que ta parole, elle est vivante. Seigneur, merci de nous renouveler, de renouveler notre intelligence profondément, Seigneur Dieu. Autant dans le domaine, Seigneur Dieu, affectif, dans les désirs, la raison et la volonté. Afin que, comme Jonathan le priait, qu'on puisse marcher avec joie dans tes voies, Seigneur Dieu, sur ton chemin. Seigneur, merci énormément. Merci d'avance, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a commencé une nouvelle section après avoir parlé que Jésus est supérieur aux prophètes et aux anges. Il est en train maintenant de montrer finalement, et surtout ici, l'Épître s'adresse, on croit, aux Juifs, ceux qui ont cru. Ceux qui croient avoir cru et ceux qui n'ont pas cru. Et il nous rappelle ici qu'il faut tourner les regards vers lui. Donc, en passant, ça s'adresse autant à nous parce que des gens peuvent se demander, « Bon, mais si c'est l'Épître aux Hébreux, pourquoi nous qui ne sommes pas Hébreux, on devrait étudier l'Épître aux Hébreux? » Bien, l'histoire fait qu'aujourd'hui, en tant que nation supposément chrétienne, non pas que je crois qu'il y a des nations chrétiennes, mais on a beaucoup mis la culture chrétienne en Occident puis dans beaucoup de pays dans le monde. Eh bien, si on se fie à l'Épître ici, ça peut s'appliquer vraiment à nous. Parce qu'on peut se retrouver avec des gens qui disent, ben, je ne sais pas si vous remplissez, par exemple, tu sais, le gouvernement, des fois, il nous demande de remplir le, comment ça s'appelle déjà? Oui, le recensement, là, tu sais. Il nous demande qui on est, tu sais, est-ce que vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes... Puis, il paraît que beaucoup de gens déclarent qu'ils sont chrétiens. C'est moins à la mode maintenant, mais quand on était, en tout cas ma génération, tout le monde qui naissait dans le pays était baptisé automatiquement. Hein? On était tous des chrétiens par baptême. Et puis après ça, on a tout fait notre petite première communion, puis la... comment ça s'appelait aussi l'autre? La confirmation, hein? Et beaucoup sont mariés à l'Église. Et même si la plupart des gens n'ont pas marché avec le Seigneur, ils veulent se faire enterrer, avoir un service funéraire à l'Église. Donc, on voit finalement que la culture chrétienne a pris autant de place dans nos pays que les Juifs avaient ici en Israël. Et pour croire dans le Seigneur, quelquefois, il faut sortir de la boîte. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, on va relire finalement une section du chapitre 3 pour, après ça, voir ensemble qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Donc, chapitre 3, verset 1, ça commence. « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse le fut, dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin que chacun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Donc, dans cette partie-là ici de la portion que l'auteur nous rappelle, il cite le psaume 95. Et c'est intéressant aussi de voir que l'auteur rappelle que la parole de Dieu, son premier auteur, malgré qu'il prend des êtres humains pour écrire la parole, le premier auteur, c'est le Saint-Esprit. Comme il dit au verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Et il cite le psaume 95, une portion du psaume. Maintenant, il faut se rappeler que, comme on l'a vu la semaine passée, là, l'auteur est en train de parler d'une institution. Moïse, c'est une institution. Moïse, c'est quelqu'un qui, avec le temps, est devenu finalement la référence la plus sûre en Israël. Au point, comme on l'a vu, que souvent dans les Écritures, on va parler de la loi de Moïse. Mais en réalité, c'était la loi de Dieu. Mais Moïse a été tellement reconnu fidèle dans le ministère que Dieu lui avait confié, malgré qui avait certaines faiblesses. C'est un gars qui pouvait régler les problèmes rapidement avant d'être entré dans son appel. Quand il a vu un Égyptien traiter durement un Juif, il l'aurait expédié vers son Créateur. Mais Moïse est peut-être parmi beaucoup de gens dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, Moïse est peut-être celui qui ressemble le plus proche d'un type de Jésus. Parce que finalement, Dieu, contrairement aux autres prophètes, lui parlait quasiment de vive voix. Vous vous rappelez entre autres la révolte que sa sœur Myriam et puis Aaron, bien, Myriam avait un peu craqué finalement Aaron contre Moïse, parce que les trois étaient appelés à être des prophètes de la part du Seigneur. Mais Myriam a trouvé que Moïse prenait trop de place. Il parlait trop. C'était toujours lui qui se présentait. Puis elle a craqué un petit peu son petit frère. Et puis finalement, n'oubliez pas, Myriam, c'est quand même la grande sœur de Moïse. Si on se rappelle de l'histoire, c'est elle là, qui avait finalement suivi, là, ils ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui un Moïse, là, mais en tout cas un petit bateau, là, quand ils ont mis Moïse finalement dans le Nil. Elle a suivi finalement jusqu'à ce que ça arrive près de la fille de Pharaon, qui était avec ses servantes, en train de se baigner finalement dans le Nil. Et quand elle a vu ce petit enfant, et Dieu l'avait fait qu'il soit beau, tu sais, un genre de beau petit enfant, là, tu sais, que tu n'oses pas tuer. Là. Bien, normalement, on ne devrait jamais oser tuer un enfant, là, mais peu importe dans quelle culture on se trouve. Bref, elle l'adopte. Et ça... Myriam, la grande sœur, elle va tout de suite voir la fille de Pharaon pour dire, « Aurais-tu besoin d'une nourrice pour qui soit allaitée? Je connais quelqu'un. » Et donc, elle a été chercher sa mère, et tout ça s'est fait en secret. Donc, Myriam, elle a toujours eu comme un peu un côté spécial avec Moïse. Tu sais, dans le sens, c'est une vraie vie. Un jour, quand elle a vu son grand frère arriver, puis il était devenu le fils de la fille de Pharaon, il était élevé dans la meilleure éducation de l'époque, il avait finalement un pouvoir incroyable, une influence incroyable, il vivait dans la famille royale. Ce Moïse, un jour, a vu le trésor du peuple de Dieu. Est-ce que vous réalisez qu'il a vu ce que nous devons voir, comme l'auteur ici dit, est-ce que l'espérance dont nous nous glorifions? Moïse a vu dans le peuple, d'un peuple d'esclaves, écrasé, méprisé, il a vu le trésor de l'humanité. Il a vu finalement dans ce peuple qui n'avait aucune richesse, qui n'avait quasiment rien. Il a vu le trésor de Dieu. Et c'est ça qui est la force finalement d'un croyant rempli de l'Esprit. Il voit ce qui est invisible. Et il est capable finalement de quitter les choses qui sont visibles pour s'attacher à ce que Dieu déclare être éternel. Car tout ce qu'on voit aujourd'hui ici va passer. J'ai encore un autre ami qui est mort. Hier soir, j'ai appris d'un de mes amis que son frère est mort, Robert. Écoute, je pense que depuis le mois de mars, ça fait 7 personnes de mon entourage qui sont parties dans l'éternité. J'en ai jamais vu autant partir en si peu de temps. Puis c'est vrai que ça me rappelle que je suis une génération qui commence à entrer vers ceux... Tu sais, j'ai mon agent de voyage céleste à l'Assemblée qui un jour va me donner mon billet. Mais s'il y a une chose de sûre dans cette vie, que rien de sûr, hein, on planifie plein de choses, mais s'il y a une chose de absolument sûr, on va tous mourir. Ça, c'est certain. Mais c'est fou, la plupart des gens vivent comme si ce n'était pas dans leur vie. Tout le monde s'organise finalement au maximum de leur temps pour vraiment planifier les choses qui vont passer. C'est important, je ne veux pas dire d'être irresponsable. Mais il me semble que c'est important de savoir en disant, est-ce que tu sais où tu t'en vas après la mort? Et puis, finalement, de faire de la recherche régulièrement, un petit peu tout le temps. Moi, je ne comprends pas que les gens ont négligé la mort, même depuis que je suis tout petit. La première chose que je demandais souvent à mon père quand j'étais petit, pourquoi il faut mourir? Papa, il va-tu avoir la fin du monde bientôt? Je ne sais pas pourquoi, ça me fascinait tout le temps, l'histoire de la fin du monde. Puis mon père me répondait tout le temps, « Non, non, fais-toi-en pas pour la fin du monde, ça va juste être la fin de ton monde. » Ah bon, OK. Mais en même temps, j'étais curieux parce que quand je posais des questions, il n'y avait quasiment pas de réponse chez nous. Tu sais, c'est comme si mes parents me trouvaient un petit peu étrange de toujours poser une question en disant « Oui, mais tu sais, grand-papa qui est mort, il est où? » Puis là, ma mère me disait « Bien, il est avec Jésus. » « Ah, OK. Il est avec Jésus. Mais comment tu le sais? » « Bien, c'est comme ça. Ah, passé comme ça. » Ce n'était pas des réponses le fun d'entendre, mais tu sais, je me disais, OK, si elle me dit ça, ma mère, elle doit dire la vérité. Mes parents, hein? T'es tout petit, tu fais confiance à tes parents, tu sais, ça règle la question. Mais pour moi, ça restait. Mais même plus tard, ado, quand j'ai vu, j'ai deux ou trois de mes amis qui sont morts dans ma jeunesse, là, tu sais. Un qui est mort d'un accident de voiture, il avait sauvé même sa blonde. Il avait vu une voiture arriver, il a tassé sa blonde, mais c'est lui que la voiture a frappé, puis il est mort. Fait qu'on se rappelle, on avait parlé, puis on avait été au salon funéraire, tu sais, toute la gang, tu sais, de l'école. Puis c'était toujours la question, quand on le regardait dans le cercueil, « Hey, wow, c'est qui le prochain? Tout le monde va passer ici un jour. » Puis j'ai un autre de mes amis que mon père, à un moment donné, m'a écrit, « Hey, dis ton ami Pierre est mort. » Il était en moto. Et puis, à un moment donné, je pense qu'il a dépassé une vanne en Gaspésie, mais il n'avait pas vu ce qui s'en venait sur le coup. Mais celui qui a déclenché ma recherche sérieuse, c'est un gars que je connaissais à peine dans le groupe où on se tenait dans le parc entre les deux écoles. Et puis, on avait appris le lundi matin qu'il était mort, d'un arrêt cardiaque, de quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Puis c'est là que j'avais été voir l'aumônier pour lui demander, d'après vous, il est où, là? Puis en tant qu'aumônier qui veut toujours être gentil, tu sais, il est peut-être au ciel. Êtes-vous sûr? Ben, tu sais. Puis là, ils parlent toujours de la bonté de la personne, t'es gentil. Moi, je le connaissais. Bon, il y a des petites bouts de gentil, mais tu sais. Mais ça a réglé un problème parce qu'en parlant avec l'aumônier, vers la fin de la discussion, vu que c'est un curé, lui, tu sais, t'es bien gentil en passant. Le gars, tu sais, bien, rien de contre lui, bien, bien smart, le gars. Mais c'est là que j'avais fini la conversation en disant, ah, c'est le fun, vous, monsieur le curé, monsieur l'aumônier. Vous, là, vous êtes payé à temps plein pour travailler à votre salut. C'est le fun. Vous, êtes sûr d'être sauvé? Vous allez être sauvé? Vous êtes sauvé, vous? Ah non, ça serait orgueilleux de ma part, là, de dire que je serais sauvé. Vous travaillez à temps plein là-dessus, vous n'êtes pas sûr. Moi, je ne travaille même pas à temps partiel là-dessus. Là, je vous dis, écoute, si j'y arriverai. Puis là, là, c'était comme, wow, mon coach, il n'est même pas sûr. Puis il dit, non, c'est de la. Tu sais, parce qu'oubliez pas, il y avait une partie qui s'appelait le purgatoire. Ça, c'est les gens qui ne s'en vont pas en enfer, mais ne sont pas assez clean pour rentrer au ciel direct. Parce que pour rentrer au ciel direct, il fallait que tu sois un saint. On avait un Québécois au ciel à l'époque, Saint-Joseph. Pas Saint-Joseph, excusez, il servait Saint-Joseph, c'est le frère André. C'était le seul, tu sais. Puis on avait quelques autres, il y avait, je pense, une autochtone aussi qui était rentrée. Mais la plupart des Québécois, je pense qu'ils allaient frire en purger le restant au purgatoire, pas vrai? Fait que là, je me suis dit, mais écoute, comment je peux savoir? Comment on peut être sûr? Et puis c'est là que tu te mets à fouiller. Mais on ne peut pas monter au ciel. Bref, l'auteur ici est en train de montrer aussi à des gens qui vivent comme les chrétiens d'aujourd'hui, qui l'ont de culture. Et vous allez remarquer que l'Épître aux Hébreux, tout le long, le gars travaille un point. Il y a plusieurs points, mais c'est toujours pour travailler une ligne. Est-ce que vous avez découvert la ligne qui travaille tout le temps? La foi. Il travaille sans arrêt sur la foi. Si on peut dire c'est quoi son idée principale, c'est la foi. Et la foi, dans l'Épître aux Hébreux, c'est une manifestation que vous avez été libérés. Le Seigneur dit, il est venu pour lier l'homme fort afin de piller sa maison. Il est venu libérer les captifs. Si vous avez la foi en Dieu et en Jésus-Christ et en son œuvre, puis notre foi est plus ou moins développée, bien, votre foi, c'est la mesure de la liberté que le Seigneur a produit par la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité m'affranchit du menteur, du prince de ce monde. Parce que l'incrédulité dans notre vie, là, elle vient d'un mensonge que j'ai reçu à propos de Dieu. C'est que je ne crois pas sa fidélité, sa bonté, sa grâce, son œuvre. Donc, l'incrédulité, c'est une autre forme de croyance contre Dieu. Et la foi, c'est la croyance par la vérité en Dieu. Et c'est pour ça qu'une manière de mesurer notre véritable maturité, est-ce qu'il y a une croissance, y a-t-il un développement, est-ce que j'explore puis je suis en train de développer la vie que je viens de recevoir par la nouvelle naissance, eh bien, il y a des points de repère, comme dans les activités humaines. Vous savez que les gens qui viennent évaluer s'il y a du développement, ils vont vous dire, bon, bien, comment on fait des progrès, comment on mesure les progrès. Il y a des éléments importants dans notre vie. La foi, ça, c'est vraiment important. Deuxièmement, c'est-tu votre pizza qui est arrivée, c'est ça? Donc, finalement, il y a la foi. La foi, c'est la libération du mensonge qui est dans ce siècle sur Dieu. Et deuxièmement, le fruit que c'est vraiment vrai, c'est l'Épître aux Corinthiens. Paul travaille dans l'Épître aux Corinthiens un autre thème. Il y a toujours un thème dans chaque lettre. La première lettre aux Corinthiens, Paul travaille en disant, si vous voulez voir votre maturité, si vraiment ça se développe, mesurez plutôt par l'amour que vous avez pour les autres et l'amour que vous avez pour Dieu. Ça, c'est dans la lettre aux Corinthiens. Mais l'Épître aux Hébreux, lui, il est en train de souligner, vous voulez savoir si vraiment vous êtes sauvé, parce qu'oubliez pas, le danger, c'est de vous faire croire que vous êtes sauvé parce que vous croyez parce que vous êtes né en Israël et que ça remonte finalement jusqu'à Abraham et que vous êtes de sa chair. Vous pensez que vous êtes sauvé parce que vous êtes né juif et que vous avez en plus une croyance en Dieu. Il y avait une croyance en Dieu en Israël. Jacques lui-même écrit aussi à des chrétiens juifs et non. Parce qu'il y a une mauvaise traduction dans nos Bibles, je ne sais pas si c'est comme ça dans votre Bible, mais quand il parle, si quelqu'un entre, si un riche entre dans votre assemblée, vous vous rappelez ce passage? Quand quelqu'un d'importance entre dans votre assemblée, est-ce que vous lui dites, assis-toi ici, puis s'il y a un pauvre qui rentre, assis-toi à terre? Ce n'est pas le mot « assemblée » en réalité. Dans le grec, c'est le mot « synagogue ». Si quelqu'un entre dans votre synagogue. Et Jean qui est en train de montrer finalement ceux qui ont vraiment cru, de ceux qui n'ont pas cru. Parce qu'il rappelle en passant que même le diable croit que Dieu existe. Donc, croire que Dieu existe, ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Le diable le croit et il y a une réaction très saine. Il en tremble. Il en a peur, avec raison. Mais le croyant, lui, devrait finalement croire l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Le Seigneur dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Et en Israël, on est encore capable de croire que bien, par Moïse, par le rituel, par les sacrements du temple, par tous les sacrifices, par toute l'organisation de la vie, les gens pouvaient penser en disant, « Regarde, je suis un bon juif, bien, je dois être sauvé, moi, là, tiens. Oui, Jésus, je crois. » Mais il est en train de montrer en disant, « Si tu y crois plutôt que de te faire accroire, parce qu'oubliez pas, on est des menteurs chroniques. Et c'est facile de tromper les autres, mais c'est encore plus facile de se tromper soi-même. On peut se raconter bien des histoires. Fait que le but, finalement, du Saint-Esprit, c'est de venir faire la lumière dans notre vie, par la parole de Dieu. Le danger aujourd'hui, c'est qu'on ne parle quasiment plus des 10 commandements comme si c'était éclairé et ça n'existe plus. Vous avez remarqué? Mais c'est vital, les 10 commandements. Parce que les 10 commandements disent exactement ce qu'on devrait être. Premier commandement, est-ce que vous vous rappelez, c'est lequel? Exactement, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Premier commandement. Maintenant, c'est assez évident que si tu lis déjà le premier commandement, est-ce qu'on aime vraiment Dieu ou on aime ce que ça nous rapporte? Deuxièmement, il va passer tous les commandements pour nous montrer, puis il finit avec la convoitise. Notre système économique fonctionne par la convoitise. Les gens désirent plus qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit, qu'est-ce qu'ils ont le droit. Non, pensez-y 2 secondes. La convoitise, c'est la chose la plus bizarre. La convoitise, elle est animée, elle stimule par « j'ai pas le droit ». Le « pas le droit » stimule bien du monde. Un exemple. Est-ce que vous avez un exemple de convoitise là, qui est vraiment spécial? Je vais vous en donner un bien simple. On a un énorme problème, surtout depuis la pandémie, avec la pornographie. Pas vrai? C'est une plaie, cette affaire-là. Mais est-ce que vous réalisez qu'il y a des gars, il y a des filles mariées qui vont aller regarder de la pornographie? Tu as le goût de dire à personne, tu as une vraie madame dans ton lit. Ah non, mais c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Ça, c'est un écran. Tink, tink, tink. Là, tu as une vraie madame ici, là. Va donc y parler. Va te coller à côté d'elle. Je comprends pas le trip. Ça, là, ça s'appelle, notre société est très forte là-dessus, de la vie en canne. Non, il y a des gens qui sont même pilotes dans notre assemblée, il y a des gens qui sont même pilotes d'avion virtuel. Où il y a des gens qui disent, hey, j'ai des problèmes avec des jeux vidéo. Ils se prennent pour des héros, puis tu sais, ils sont vraiment là-dedans. Il y en a qui embarquent même, il me paraît, je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose là-dedans, là, mais qui ont des communautés, ils ont des voisins, ils peuvent acheter même du linge, du faux linge, ça n'existe même pas. Ils payent en plus. Il ne faut pas être épais. C'est des jeux d'épais. Ça prouve l'épaisseur qu'on peut avoir dans notre cerveau. Il y a plus de gras que de matière grise, des fois. Tu comprends? Mais je veux dire, pourquoi on ne veut pas le voir? Pourquoi on ne veut pas l'admettre pour venir devant le Seigneur? Et c'est vrai, Seigneur, moi, je me nourris de vie en canne. Est-ce qu'il y aurait un danger similaire avec ma foi avec toi? Est-ce que je vis une vraie vie avec toi ou bien je vis une vie virtuelle avec toi, je me fais accroire? Et l'auteur ici va se rappeler, il va nous rappeler une chose importante. Faites attention à vivre juste d'informations bibliques et de ne pas vous approcher au nom de cette information, de ne pas vous confier au nom de ce que vous avez appris, dans la foi véritable. Par exemple, il donne l'exemple, à partir du psaume 95, mais qui cite au fond le Pentateuque, surtout la période du... Est-ce que vous réalisez qu'il donne l'exemple, le Saint-Esprit rappelle l'exemple le plus fantastique. La génération que Dieu parle de rebelles et qui ont été empêchés par la discipline de Dieu d'entrer dans le pays, c'est ceux qui ont vu Dieu agir par Moïse en Égypte d'abord. Ils étaient dans l'esclavage, Pharaon les menait, il fait tuer leurs enfants, il prenait finalement les plus jeunes hommes, les plus jeunes femmes, puis il profitait d'eux autres. Ce peuple-là se faisait exploiter par un peuple violent à l'époque. Moïse arrive, il va avoir 10 plaies sur l'Égypte. Ils vont voir, ils vont vivre. Et la dernière, c'est celle de tous les premiers-nés qui vont mourir. Et ceux qui ont obéi à Moïse sur « tuer un agneau, mettre le sang dehors », l'ange qui faisait mourir tous les premiers-nés, pas juste des humains, tout ce qui est premier-né, même des animaux, mourait. Qui est en passant le signe qu'un jour, pour pouvoir nous racheter, il faut qu'un premier-né meure. Le Fils unique de Dieu seul, il va payer. C'est pour ça qu'on tuait l'agneau. On tuait celui que Jean-Baptiste voit arriver en disant « c'est lui l'agneau de Dieu ». Et Jésus rappelle qu'il est l'unique Fils du Père. Et c'est par lui seul. C'est pour ça que les disciples, même eux autres, avaient de la difficulté à comprendre. Les miracles ne sont pas suffisants, même si je manifeste finalement de qui je viens. Il a même ressuscité des morts. Mais toutes ces choses-là, c'était pour juste dire, « Faites-moi confiance, je dois aller payer la dette. » Vous avez une dette énorme. Et c'est pour ça que le Messie devait souffrir. Et pourtant, c'était marqué dans les Écritures. Ésaïe 53, défini clairement. Ou encore une fois, dans les autres prophètes vont rappeler en disant, quand ils vont revenir, ils vont reconnaître celui qu'ils ont percé. Donc, l'auteur veut rappeler ici que l'incrédulité, c'est quelque chose qui ne vient pas simplement de l'ignorance. C'est une méchanceté du cœur envers Dieu. Parce que, comme il dit, veillez à ce qu'il n'y en ait pas qu'il y a des méchants, tu sais, au point de se détourner du Dieu vivant. Ils ont vu les 10 plaies. Ils ont vu, après ça, la mer rouge s'ouvrir devant eux pour sortir. Ils ont vu, finalement, le Seigneur se charger lui-même des délivrés de l'armée de Pharaon qui s'en venait en arrière d'eux pour les détruire. Ils ont vu pendant 40 ans l'œuvre de Dieu. Ils ont vu une colonne de feu et de fumée qui les accompagnait. Ils ont entendu même la voix de Dieu. Ils ont vu finalement quand ils ont reçu les 10 commandements là, tu sais, sur le Sinaï. Moïse était rentré là. Il y avait un tonnerre. Et bien, tu sais, c'était le spectacle intense comme ça. Là, aucune génération d'aucun peuple n'a jamais vécu un 40 ans aussi intense avec Dieu. Et pourtant, l'auteur nous rappelle ici qu'ils sont restés incrédules. Maintenant, regardez bien ce que l'auteur veut nous souligner. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas l'information. Tu ne peux pas avoir plus d'informations puis plus de signes. Puis, je veux dire, c'est du vrai pour eux autres. C'est vraiment vrai. Mais qu'est-ce que la foi? Non, on est obligé de voir que c'est bien plus que juste de l'information sur les choses de Dieu. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est de s'approcher du Dieu vivant sur sa parole. C'est d'agir en fonction de ce que tu as entendu. C'est pour ça que je vous dis, faites attention, ça peut être dangereux dans nos vies que notre foi se rend manifeste que par notre obéissance. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, l'auteur veut montrer ici que la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais la foi est un acte qui manifeste l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie parce que Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, alors là, vous êtes réellement mes disciples. » Et demeurer dans la parole de Dieu, ce n'est pas juste s'informer. Ça devient un livre comme une carte géographique. C'est pour savoir comment je vais vivre aujourd'hui. Comment je vais faire? Parce que le Seigneur va permettre que je reste dans une vraie vie ordinaire. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne comme une vie en canne ou virtuelle. Même si on est dans une société aujourd'hui qui fournit tellement de moyens pour vivre une vie imaginaire. Pas vrai? Tu sais, même les gens font des voyages, mais c'est souvent des voyages organisés. Je ne dis pas que ce n'est pas des vrais voyages, mais ça n'a rien à voir avec les voyages explorateurs d'avant. Tu sais, quand il dit « venez », tu sais, des centres d'exploration, mais c'est tout bien organisé, tu as toutes sortes d'affaires. Puis c'est pas mal, mais c'est pas... c'est pas la vraie vie. Même quand on part en voyage, tu sais, les gens disent « ah, moi j'ai besoin de... » d'un voyage d'aller, je ne sais pas moi, au Mexique ou ailleurs, peu importe, tu sais, c'est bien, tu sais, des belles places. Mais souvent les gens disent, j'ai besoin d'être dépaysé. Mais tu es dépaysé dans quelque chose de paysé comme chez vous. Tu sais, en réalité, tu t'en vas, par exemple, tu t'en vas dans un bel hôtel, et puis tout est organisé, puis tu as de la nourriture, puis tout. Bon, ben oui, tu as l'impression d'être ailleurs, mais tu es très chez vous. Puis après 2 semaines, on s'ennuie, tu as-tu hâte de retourner dans ta petite routine? Ah oui, on revient à la maison. Donc, moi, je pense que dans la vie chrétienne, il faut être capable de savoir, est-ce qu'on marche vraiment avec le Seigneur, ou bien, finalement, on essaie de produire nos réunions virtuelles. Ben, je sais qu'on est en virtuel en ce moment, désolé, là. Mais dans le sens, est-ce qu'on a vraiment organisé notre vie en fonction d'obéir de plus en plus à ce qu'on essaie de discerner avec la volonté de Dieu? Et c'est fascinant de voir que le Seigneur est vraiment au milieu de nous. C'est pour ça que je vous dis, entre nous, rappelons-nous les histoires que Dieu nous fait vivre. Parce que la prochaine génération, j'aimerais ça aussi qu'elle sache que le Seigneur, il est vraiment au milieu de nous autres. On est vraiment son peuple. Mais si on ne raconte jamais des histoires, ben, je suis désolé, les gens vont penser que c'est juste une philosophie de vie, c'est une croyance, c'est une religion. Moi, j'aime me rappeler les histoires. Je suis capable de me les rappeler à moi tout seul, là, tu sais. Puis c'est ma manière de rendre grâce à Dieu. Quand on veut louer le Seigneur, vous savez ce que ça veut dire, louer quelqu'un? Ça ne veut pas dire que tu l'empruntes puis tu y payes pour qu'il vienne nettoyer tes fenêtres, là, tu sais. Mais quand tu loues quelqu'un, c'est que tu parles hautement de lui. Louer quelqu'un, c'est de parler, tu sais, de sa grandeur, de parler en bien. Puis, il est souvent dit d'entrer dans sa présence avec des actions de grâce et des louanges. Bien, le matin, quand je me lève, tu sais, je me promène dans ma maison. Docteur, c'est là que je fais mon 3 km, là, tu sais. Et puis, là, je commence souvent à me rappeler, puis je remercie le Seigneur qui me donnait une bonne mémoire. Puis j'aime les histoires. Moi, là, quand j'étudie jusqu'à temps que je puisse voir ça en image, que je puisse voir ça en histoire de vie. Mais tant que c'est théorique, tout ça, tu sais, mais je dis, où il va en venir, le gars? Il va en venir en disant, avez-vous vu? Ils ont tout vu, mais ils n'ont pas organisé leur vie en fonction de faire confiance. Et là-dessus, il y a juste 2 témoins, 2 gars qui sont sortis d'Égypte, qui ont pu entrer dans le pays. Parce que ces 2 gars-là, ils ont cru Dieu, Josué et Caleb. C'est les 2 seuls qui semblent avoir vraiment cru Dieu, au point que quand ils ont été dans le pays, tu sais, puis les espions sont venus donner un mauvais rapport, tu sais, en disant, non, il y a des géants, les villes fortifiées, on a de là une gang de sauterelles à côté d'eux autres. Moi, j'aime Caleb. J'ai hâte de le rencontrer, ce monsieur-là. Caleb, il dit, non. Il y a un moment donné, quand c'est temps de partage, il a dit à Moïse, donne-moi la montagne. Il dit, ça va être de la nourriture pour moi. Voulant dire, donne-moi ce qu'il y a de plus dur à avoir, parce que moi, je veux connaître Dieu. J'ai hâte de voir comment il va leur donner une volée. Trop beau. Moi, j'aime ça. Quand ça va bien trop longtemps dans ma vie, je vais être honnête avec vous autres, là. Quand ça va bien trop longtemps dans ma vie, je m'ennuie. Puis là, les gens me demandent, comment tu vas en ce moment? C'est catastrophique mondial. Je me sens tellement bien. J'ai tellement hâte de voir ce que Dieu va faire de ça. Puis même si tout le monde pense que le gouvernement mondial est en train de s'organiser, l'Antéchrist est au coin de la rue, tu sais, la bête s'en vient, le 666 est dans le vaccin, tu sais. Même si ça serait vrai, je dis à ces gens-là souvent, ben tant mieux! Comment ça tant mieux? T'es pour l'Antéchrist? Non! Le Seigneur dit, levez vos têtes quand vous allez voir, j'arrive! Moi, il en donné une volée, puis il ne se relèvera plus jamais. J'ai-tu hâte de voir ce jour-là arriver? Fait que tout le monde panique en disant, c'est la fin du monde. Mais écoutez, êtes-vous chrétien? Si vous n'êtes pas chrétien, ayez peur. Mais si vous êtes chrétien, vous ne devrez pas avoir peur. Au contraire, vous devez dire, hey, ça s'en vient. Tant mieux. Nouvelle terre, nouveaux cieux. Anyway. Tout ça pour dire que j'aime ça me rappeler. Puis c'est drôle, ce matin, je me rappelais d'une histoire. Pasteur Guy, je me rappelais de toi et ton épouse. Quand on avait soupé sur le petit bateau de Pierre de Courville, tu te rappelles? Et puis, tu en parles ensemble, puis c'était, tu ne filais pas ce fois-là, c'est un ben-ben. Hein? Pourtant, le repas était bon, me semble. Puis là, on parlait, puis tu étais un peu découragé, puis je te disais, non, ben gars, on ne sait jamais, blablabla, tu sais. Puis là, je commence à dire, gars, peut-être que le Seigneur, à un moment donné, va permettre, tu sais. Puis là, tu me regardais en disant, arrête, hein? On dit, arrête, tu sais. Niaise-moi pas, tu sais. Puis là, dans le matin, je vais essayer, je le niaise peut-être un peu, là, tu sais. Mais on était dans une période où on priait parce que j'avais eu une conviction peut-être à peu près 6 mois avant, parce que je m'occupais aussi de fonder l'église de Chamblay à l'époque, là. J'allais là le dimanche soir. Et puis, étrangement, pendant que je suis en train de prêcher, j'ai eu une pensée forte qui m'est venue. tu vas retourner en Haïti. Parce que depuis la Révolution, on avait arrêté, ça faisait au moins quoi, une couple d'années qu'on n'y allait plus, c'était plus possible d'y aller. Puis, je ne veux pas être méchant, là, mais j'y vais jamais en courant en Haïti. J'y vais toujours par la foi, tout le temps. Puis quand, je me rappelle, cette pensée-là était tellement forte qu'on n'était pas y retourné que j'avais de la misère à continuer avec mon message. Mais je dis, OK, tu sais, dans le matin, je dis, OK, Seigneur, si tu veux qu'on y aille, amène-moi. Un peu comme tu disais le matin, il nous prend par la main, puis il ne nous lâche pas. Et c'est là que j'avais parlé à nos jeunes. Je dis, écoutez, quand est-ce que vous avez prié, vous autres, pour qu'on ait un autobus? Ben, regarde, quand on a prié pour un autobus. Je dis, nous autres, on a prié à un moment donné pour avoir un autobus, parce qu'on partait 4-5 voitures avant pour aller faire de l'évangélisation, par exemple, à Saint-Sauveur ou ailleurs. Et puis, on a fait le tour du Québec comme ça. Puis, à un moment donné, on s'est mis à prier en disant, hey, pourquoi on s'achèterait pas un autobus? Je dis, les jeunes, vous autres, vous priez pourquoi? Votre vie chrétienne, là, elle est plate à la mort. Je dis, regardez, moi, je pense que le Seigneur va nous ramener en Haïti, mais il nous a amenés, mais il nous avait déjà donné un premier signe, le bateau blanc. Maintenant, s'il veut nous ramener là, les jeunes, on va prier que le Seigneur nous ramène en bateau. Qu'il donne un signe de bateau. Puis là, j'avais même trouvé une photo sur Internet d'un grand voilier. J'ai mis ça, puis je me rappelle, il y avait une jeune qui m'a dit, hey, « Faites-vous ça pour nous niaiser? » Ben, je dis, « Non, c'est pas de ma faute, c'était niaiseuse, là, t'sais, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. » Je disais, « Priez. Ils vont dire que vous n'avez rien. Votre vie chrétienne, c'est quoi? Vous avez juste du bon petit gentil? » C'est pas suffisant. C'est pas comme ça que vous allez connaître le Seigneur. C'est de chercher, voir qu'est-ce que le Seigneur ouvre comme porte pour qu'on le suive. La foi, ça marche par obéissance. Fait que les mois passent, puis c'est là qu'on est sur le lac, et puis je te dis, bien, on sait jamais, regarde, peut-être que tu partirais, tu sais, en Haïti, puis, tu sais, en voilier. Puis là, tu me regardes, on a quand même arrêté de me niaiser, tu sais. Fait que là, écoute, à peine une semaine ou deux après, un gars qui se faisait des années, l'ancien capitaine Keith McFarlane, il m'appelle, il dit, hey, en passant, tu m'avais pas déjà dit, toi, que tu avais un ou deux gars chez vous qui savent naviguer des voiliers? Oui. Il dit, parce que, gars, je travaille avec un monsieur millionnaire, il va emmener une barge, puis en même temps, on va emmener un voilier, mais écoute, je vais piloter, moi, la barge, et puis il me faudrait, je pensais à toi, là, que ça sera pas long, je te rappelle. Là, j'appelle Pasteur Guy, hey! « Es-tu prêt à partir en Haïti en voilier? » Puis là, il me dit, « Non, regarde, on va ramasser un fonds, puis on va te donner un peu d'argent, puis es-tu prête? » Puis il n'en revenait pas. « Non, on va voir. » Puis comme de fait, le Seigneur nous a rouvert la porte là. Et puis finalement, le Seigneur nous a amenés à Tiverny. Puis en plus, quand on n'était pas à Tiverny, c'était à Ebo Beach. Hein? Puis en même temps, mon ami Keith McFarlane, qui est un gars très slow. Nous autres, on l'attendait à l'aéroport, puis vu qu'il n'arrivait pas, ben, j'avais toute une équipe, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, on va prendre des taxis, puis on va tout de suite se rendre, tu sais. Moi, j'essaie de mémoire par une photo, tu sais. On s'est perdu dans le pays. Et puis, tu te rappelles, Normand? Puis là, après ça, même les chauffeurs étaient-tu nerveux un peu? Tu une gang de blancs, là, c'était pas moi pour eux autres, en tout, là, tu sais. Mais finalement, on est revenu sur nos pas, c'est le soir, quasiment la nuit. Puis on trouve la place, et Guy s'en vient avec Thérèse, avec les flashlights. Le Seigneur nous a amenés là. Il y a tout. Écoute, j'aimerais vous. Ces histoires-là, ce n'est pas pour vous niaiser que je vous dis ça. C'est pour vous rappeler que le Seigneur, il est vraiment vivant. Il est vraiment un vrai Dieu. Il nous a vraiment rachetés. Il veut s'occuper de nous autres. Il ne compte pas sur nous autres qu'on ait tout ce qu'il faut. Il va tout nous donner ce qu'il faut pour marcher avec lui. C'est ça qui est vraiment le côté, si on pense comme le monde, là, on essaie toujours de voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Le Seigneur dit, quand tu n'as pas atteint ce que tu peux faire, tu vas pouvoir tout faire ce que je veux que tu fasses. Ça, c'est la plus belle vie qu'on ne peut pas vivre. Fait que c'est pour ça que l'humilité est essentielle, parce que les gens veulent toujours avoir, faites attention, l'information biblique est très, très importante. Mais si vous n'avez pas mêlé la foi à ce que vous avez entendu, faites attention de ne pas juste accumuler de l'information biblique sans prendre des décisions en fonction de ce qu'il dit. Parce que ces gens-là, ils en ont vu et ils en ont entendu bien plus que nous autres. Imagine-toi d'avoir comme pasteur Moïse. Écoute, c'est un bon pasteur, ça, mes hommes, Moïse. Deuxièmement, le Seigneur lui parle ses messages. Ils voient la colonne de feu puis de fumée. Ils ont passé au travers de toutes sortes de choses. Dans le désert, le rocher va donner de l'eau. La manne est là chaque matin. Un moment donné, ils se sont plaints. On est allé manger de la manne. On veut manger de la nourriture. On veut manger du poulet. T'sais. Ben, le poulet est arrivé du ciel. Il y en a eu tellement, finalement, qu'ils en ont mangé à devenir malade. Je veux dire, ils ont vécu des choses absolument incroyables. Et pourtant, malgré tout ça, ce n'est pas l'information dans la tête qui manquait. Ils n'ont pas mêlé la foi à ce qu'ils ont entendu. Comme pour les Corinthiens, Paul le rappelle, la même chose. Le problème, là, c'est qu'ils ont entendu le même message que nous, mais ils n'ont pas mêlé la foi à ce qu'ils ont entendu. Donc, notre responsabilité, c'est de marcher par la foi. Le combat de la foi, combattre mon incrédulité, comme si Dieu n'était pas fidèle, comme si Dieu n'est pas digne de confiance. Toute l'Épître va travailler sans arrêt là-dessus. Et faites attention de faire un substitut très dangereux. Il y a des gens qui peuvent compenser avec beaucoup d'informations bibliques, puis aujourd'hui, c'est très facile d'en avoir l'information biblique. Vous pouvez écouter 150 prédicateurs par jour à la grandeur de la planète sur Internet, pas vrai? Mais est-ce que vous savez ce que Dieu est en train de nous dire à nous autres ici en tant qu'Église locale? Le Seigneur, c'est pour ça que les messages d'Église, les messages à l'Église, des fois, ils peuvent être moins riches théologiquement, ça se peut. Mais dites-vous une chose, le Seigneur s'adresse à son peuple. Pour moi, c'est extrêmement important le rassemblement de nous autres. Parce que Dieu va toujours nous parler à nous autres. Qu'est-ce qu'il prépare pour nous autres? On s'en va où, nous autres, avec lui? Il ne parle pas d'une manière juste générale comme des grands principes généraux. Dans toute sa parole, voici ce que l'Esprit dit à l'Église, comme il dit dans l'Apocalypse, là, tu sais, aux sept Églises. Ils ont reçu chacun une déclaration, une parole spécifique. Et puis, c'est comme ça que nous autres, ici, par exemple, ça a commencé à Cartierville, moi, ça a commencé dans mon salon. Et puis, le Seigneur a tout pourvu. Si on est ici en ce moment, là, ça a été purement pourvu par le Seigneur. On n'avait plus de place à Cartierville. On tournait en rond, là. Ça s'était bloqué. Puis je me rappelle, je me promenais des fois avec Gilles, on essayait de trouver un autre bâtiment, une place à quelque part, on ne trouvait rien. Puis jusqu'à ce qu'une pensée me revienne. C'est le Père qui s'occupe de ses enfants. Ah, c'est vrai, pardon, Seigneur, tu sais, mais tu sais, t'attends quoi de moi, là? OK, t'as raison, OK. Et puis, bing, en quelques semaines, ça déboule, bing, on se retrouve ici. Une grosse église. Pas capotant, ça? Le Seigneur a des choses pour nous autres sans arrêt. C'est pour ça, prier en passant, parce que cette semaine, j'ai rassemblé finalement tous nos les leaders de la province un peu partout, en Afrique, en Haïti, parce qu'il y a deux projets qui nous sont proposés en ce moment. Je ne vous en parlerai pas tout de suite. On va vous laisser sur le suspense. Mais on va vous en parler éventuellement là, quand, pour discerner encore une fois le plus grand trésor de notre vie, là, c'est de discerner qu'est-ce que Dieu prépare qu'on puisse continuer à le connaître. Pas juste qu'on soit toujours en train de s'informer. C'est important l'information, mais c'est en vue de marcher. C'est en vue de voir qu'est-ce que j'ai comme portion là-dedans. N'ayez pas peur d'être trop jeune, trop vieux, en forme, pas en forme, c'est totalement secondaire. Chacun de nous autres ici, on a une part à jouer. Ça marche? Pensez-vous jamais exclu du projet pour X raisons? Le Seigneur appelle tout son peuple. On est ensemble. Je vais finir avec une autre petite histoire, le fun. Il y avait une sœur qui m'avait dit, j'aimerais ça aller avec vous autres en Haïti. On était à Cartierville à l'époque, dans les premiers voyages de tout. Tu sais. Ben, je lui dis, regarde, remets ça au Seigneur. Non, je lui dis, regarde, on va demander tout de suite au Seigneur. Parle-en pas à personne. Puis la personne à l'époque qui était en charge de la table de livres, elle dit, regarde, peut-être que je pourrais emprunter l'argent de la table de livres puis pour aller en voyage avec vous autres là-bas en Haïti. Puis je dis, non, t'emprunte pas à la table de livres. Puis là, j'avais dit, Romains 12 dit, ne devez rien à personne, surtout pas à la table de livres. Parce que si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, pourquoi tu vas l'avoir demain? T'sais? Je dis, non, regarde, c'est bien plus simple que ça. On va le demander au Seigneur, mais le but, là, c'est pas, regarde ce qui est trippant avec le Seigneur, parle-en pas à personne, ça va être entre moi et toi, OK? On n'en parle à personne, remets ça au Seigneur, on va lui demander qu'il te paye le voyage. Fait comme ça, tu vas savoir que c'est de lui que tu viennes. Ah, dis OK. Fait qu'on remet ça au Seigneur, on prie. Puis je n'oublie pas, le plus important, tu ne le dis pas à personne. Le Seigneur dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, Dieu entend dans le secret. T'sais. Elle dit, OK. Elle va être un petit peu douteuse, mais ce n'est pas grave. Même si tu doutes, mais que tu obéis, c'est obéir qui manifeste ta foi plutôt que ton doute. Tu n'as pas besoin d'éliminer le doute. Rappelez le gars qui a dit à Jésus, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Il a osé y faire confiance malgré tout le doute qu'il avait dans sa tête. « C'est pas grave le doute que j'ai, c'est l'action de foi qui compte. » Fait que anyway, la personne m'a fait confiance, elle a fait ça. 3-4 jours plus tard, je me rappelle, c'était M. et Mme Blain. Il y en a qui les ont connus. Un couple tellement gentil. Un moment donné, ils sont venus me voir, dire, « On a tellement à cœur de vous payer le voyage. » Non, c'est beau, j'ai déjà l'argent. » Je dis, non, mais on a à cœur depuis 2-3 jours de vraiment payer le voyage. Bien, je dis, écoutez, pas le mien parce qu'il est déjà payé. Mais vous êtes sûr? Oui, oui, y a-tu quelqu'un de bord? Ça se peut. J'ai pu aller voir France. Elle serait bien contente de vous voir. Oui. S'en vont voir. France revient, elle capote tellement, elle n'en revient pas, elle en reparaît quasiment. T'sais. Je dis, regarde, ça, c'est ça, marcher avec Dieu. Là, ce n'est pas juste que les blains sont gentils, c'est que Jésus est au milieu de nous autres. Il nous a entendus quand il a parlé. Je dis, il faut bâtir notre église là-dessus pour pas qu'on soit juste un collège biblique ici. Là. Que là, tout le monde est capable de dire oui, dans le grec, dans l'hébreu. Parle-moi donc en français. Et que finalement, on puisse le louer. Qu'on soit une église qui loue le Seigneur, qui parle hautement de lui, de tout ce qu'il nous a fait vivre, pas à cause qu'on est si bon que ça, parce qu'il nous aime. Regarde, il nous aime tellement qu'il nous a adoptés, il a payé notre dette, il nous accorde son Esprit Saint, qui est l'Esprit de la communion, de Corinthiens 13:13, pour que la communication entre son Père et nous soit rétablie, et lui va servir de sacrificateur. Lui, il va satisfaire toutes les exigences de Dieu à notre égard et il va avoir compassion de nous autres, il va s'occuper de nous autres, il sait très bien ce qu'on vit, il sait très bien les doutes qu'on a. Il dit simplement, viens me faire confiance. L'auteur va travailler sans arrêt là-dessus pour dire à tout le monde, lâchez maintenant l'apparence de sécurité qui est Moïse et toute l'institution, car Moïse, c'était le gars qui devait venir annoncer ce qui s'en vient. Il devait annoncer le juste. Et puis, il finit en disant, n'oubliez pas, la phrase de Moïse la plus forte que vous devez retenir. Étienne le rappelait à Israël. Pierre le rappelle aussi. Si vous vous rappelez finalement, tournez finalement dans Acte 7. Vous savez, le message le plus écrit de la Bible, c'est celui d'Étienne. Hein? C'est le plus gros message. Ils ont tout, tu sais. Dans Acte 7. Il va leur rappeler une phrase fondamentale par rapport à Israël et Moïse. Au verset 37, il dit, « C'est ce Moïse, parce que tout le monde se vantait d'être au nom de Moïse, hein, ici, c'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Encore une fois, Moïse, c'est celui qui ressemble le plus de titre de ministère. Il est sauve de la maison d'esclavage. Tu sais, Jésus, il rassemble son peuple, il nous fait sortir l'agneau, ainsi de suite. Bref, mais regardez, il dit, un frère comme moi. Puis Pierre et Jean vont prendre aussi la même déclaration. Si on continue plus loin, il rappelle en disant, ceux qui ne vont pas l'écouter, il va arriver quelque chose de grave. Pierre et Jean vont rappeler aussi aux Juifs dans Actes 3, 22, 23. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Est-ce que vous réalisez que Israël, au nom de ses autorités, ont rejeté Jésus? Maintenant, il y a une petite forme d'idolâtrie d'un fois sur Israël. Il faut annoncer l'Évangile à tous, dont Israël, les Juifs. Mais j'ai déjà même entendu des chrétiens disant, « Non, mais ils vont être sauvés pareil parce qu'ils sont juifs. » Non. Le Seigneur leur a même dit durant son ministère, « Le royaume va vous être enlevé puis va être donné à une autre nation. » Maintenant, pour que les Juifs puissent revenir à Israël, l'Israël de Dieu, Jésus dit, « Je suis la porte. » Parce que Moïse les avait avertis, « Si quelqu'un n'écoute pas le prochain prophète que Dieu va vous donner comme moi, celui qui va ouvrir une autre alliance, si vous ne l'écoutez pas, vous allez être exterminés du peuple. Tout le peuple a dit un jour au nom de ses autorités. Puis c'est pour ça qu'il faut prier pour nos autorités. Ça, c'est une doctrine qu'on oublie trop souvent parce qu'on est tous rendus des petits chefs, là, on dirait, dans nos démocraties. Les autorités qui décident en ce moment sont en train de décider au nom de nous tous. Hein? Et c'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Parce que leurs décisions, on va en subir les conséquences ou les bénéfices. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit à Pilate? Pilate, qui est un païen, il était prêt à reconnaître que Jésus n'était pas digne de mort. Il a tout fait pour le défendre, à la limite, Pilate. Mais à un moment donné, il a sauvé sa carrière en disant, « Ah, ils sont tellement têtus, ils veulent le faire tuer, bien, je vous le livre, puis moi, je m'en lave les mains, je ne veux rien savoir de ça. Crucifiez-le. » Parce que la phrase que les autorités en Israël ont dit clairement, « Hey, Pilate, si tu te mets du côté de Jésus, tu es contre César, il se fait roi. Nous, on ne le reconnaît pas comme roi. Nous, notre roi, c'est César. » Alors Israël a clairement dit, on met le Seigneur qui nous a donné son oint, et c'est une manière de dire, dans la culture de l'époque, comme on a fait dans notre culture, on met Dieu dehors de nos institutions. On est dans un pays qui se disait chrétien, maintenant il est totalement apostate. Et c'est les gens qui sont carrément ouvertement contre Dieu qui dirigent le pays. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit être en guerre contre eux. Inspirons-nous, finalement, de ces premiers chrétiens, comment ils ont vécu. Ils n'ont jamais demandé que le Sanhédrin meure. Ils n'ont pas mis des bombes. C'est vrai qu'il n'y en avait pas à l'époque, là. Mais ils ont commencé à prier pour eux. Nous, il faut prier pour nos autorités, qui sont en train de faire des lois qui vont à l'opposé de la loi de Dieu, au nom d'une meilleure bonté, d'une meilleure tolérance, d'une meilleure tout. T'sais. Prions pour eux parce que notre pays s'égare très profondément et très loin. Mais ce n'est pas grave. Ça va être encore plus intéressant de voir comment le Seigneur va agir au travers de tout ça. Pas besoin de paniquer. On veut le connaître. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est comme ça qu'on abandonne toutes nos idoles qui donnaient une fausse sécurité. Et en ce moment, le Seigneur permet que la petite pandémie, un petit virus de rien. Tu sais, je me suis déjà rappelé il y a quelques années, dire, hey, tu sais, ça ne prendrait rien qu'un petit virus de rien pour nous revirer en envers. Bien, écoute, il est arrivé. Je ne l'avais pas prophétisé, ça, là, mais tu sais, la planète est complètement bouleversée avec un petit virus qu'on n'arrive même pas à voir si on n'a pas un télescope, un microscope, c'est-à-dire. Et puis, c'est... Puis les gens me demandent, comment tu vis ça? Bien, bien. J'ai hâte de voir comment Dieu va nous en sortir de celle-là. J'ai surtout hâte de voir c'est quoi le plan de Dieu dans tout ça. Moi, je ne veux pas être distrait par toutes les sortes d'informations bizarres que je reçois de partout, au point que j'étais prêt à fermer mes deux Facebook tellement j'étais tanné d'entendre des niaiseries, que tout le monde m'envoie des messages de partout. Ça m'épuise. Je ne les écoute pas. On va le dire tout de suite, là, si vous m'écoutez, je ne vous écoute pas. Je vais juste répondre aux questions des gens qui me posent des questions bibliques eux autres, moi prendre le temps de leur écrire. Mais tous ceux qui veulent que, je ne sais pas, il y en a même un, il dit « Appelle l'armée! » Appelle l'armée. D'abord, j'en connais un qui travaille pour l'armée, mais lui, il enterre les morts. Il s'occupe d'un cimetière. Je me dis, coudonc, ils sont rendus où? Sur quelle planète, tu sais? Puis ils se disent chrétiens, c'est ça qui me brise le plus le cœur. Quel mauvais témoignage ils sont, c'était peurant. Mais c'est sûr qu'on a, dans toutes les sortes de groupes, que ce soit les artistes, les journalistes, les politiciens, les chrétiens, les... on a toujours des petits frères qu'il faut mettre dans le garde-robe quand la visite vient faire un tour. Tout le temps. Bien, on en a. Puis en ce moment, bien, que celui-là, c'est pas grave. Ils font des niaiseries, mais on va voir comment le Seigneur va nous en sortir encore. Moi, je trouve ça fascinant, ce qu'on vit. C'est trop beau. Parce que ça va tellement pas normal que c'est le fun de voir le Seigneur venir dans les moments qui viennent quand ça va pas normal. Quand ça va normal, on dort. Tout le monde dort sur la Switch. Tout le monde dit, hey, pas encore une autre réunion dimanche. Quand est-ce que je tourne mon gazon? Achète-toi une chèvre, c'est tout. Tu te feras un michois à la fin de l'année, tu sais. Anyway, excusez-moi là, pour rire des gens de même. Là. Mais encore une fois, voyez ici, ce n'est pas l'information, même les signes qu'ils ont vus. Le seul moyen, c'est si on entend la parole de Dieu, comment j'y obéis? Comment je réorganise ma vie en fonction de ce qu'il nous dit? Et comment on va s'encourager ensemble pour ne pas laisser un cœur méchant et mauvais se détourner du Dieu vivant pour se confier dans d'autres choses? On va continuer à y faire confiance et c'est plus que trippant, puis un jour, on va le voir. Écoute, on s'en va vers ça, c'est plus que certain. Fait que, on va continuer à sortir le message. on va continuer à s'organiser ensemble pour s'édifier, à prier les uns pour les autres, pour voir comment le Seigneur va pourvoir à nos besoins, qui n'est pas juste pour le besoin, qui est pour le connaître. Le connaître. Et plus il va nous apprivoiser comme ça, il nous répond toujours quand on prie. Mais attention, je vais mettre une petite définition claire, c'est quand je dis « il répond toujours ». Il répond toujours, mais ça ne veut pas dire qu'il répond comme tu veux. Ça marche? Rappelez-vous quand vous étiez petit. Quand vous posiez une question à vos parents, si vous vouliez quelque chose, ils vous répondaient toujours. Mais c'était assez rare que c'était toujours comme je voulais. Moi, j'étais sûr que des bonbons, c'était suffisant pour vivre. Puis ma mère était déjà écologique avant que ça arrive, tout ça. Puis elle était même pour la santé. Moi, j'ai commencé à boire, mes amis, les dauphinés à côté, là, quand j'arrivais des fois de l'école, ça sentait ce qu'ils appelaient le souper, c'était le steak de cowboy. Mais ça sentait tellement bon! C'était du ballonné, patate, tout ça, avec une bouteille de Coca-Cola à l'époque. Le party total. Moi, quand j'arrivais chez nous, ma mère nous attendait avec un verre de jus, extracteur de jus, pomme, céleri, puis une autre affaire, je ne me rappelle plus, ça faisait trois couleurs. Carotte. Puis elle disait, mêlez ça avec votre salive tranquillement. Puis après ça, c'était du poisson. Et ça avait l'air d'un pauvre poisson mort dans une swamp. Mais c'était bon pour la santé. Pas de friture chez nous. Fait que mes parents sont toujours bien occupés de nous autres, mais pas exactement comme je voulais qu'ils s'occupent de nous autres. Mais c'est comme ça que Dieu m'a appris. Je m'occupe comme de tes parents. Je suis ton père. Rappelle-toi de ton père. OK. Il nous tient par la main et il nous amène où lui veut, pas où on veut. Mais c'est parfait. On est rendu ici aujourd'hui. Et louons-le. Parlons hautement de lui, de ce qu'on a vraiment connu de lui. Louons le Seigneur. Louons-le. OK? On remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, je te remercie encore une fois dans ta bonté qui dépasse même ce qu'on peut imaginer. Parce qu'en ce moment, on voit en partie, on connaît en partie. Mais bientôt, tu dis, quand on va arriver dans ta présence, on va connaître parfaitement comme on a été connu. Et on va sûrement voir notre condition présente dans une lumière tellement différente qu'on va vraiment tomber à genoux devant toi en disant, « T'es un Dieu merveilleux, t'es un Dieu bon, t'es un Dieu d'un amour absolument incroyable. Merci de nous avoir rachetés, sauvés. » Et Seigneur Dieu, de nous destiner, non pas comme les gens de ce monde qui veulent vivre que cette vie, mais ici, présentement, de discerner ta volonté, de marcher avec toi, nous a permis de te connaître. Et ça nous a montré que tu nous as saisis. C'est pour ça qu'on peut te saisir. Et pas juste individuellement, mais c'est collectivement. C'est vraiment important qu'on se rappelle que c'est la collectivité. Tu t'adresses à ton peuple. Alors, Seigneur, merci de nous faire marcher dans tes voies et de nous donner, Saint-Esprit de Dieu, de discerner la volonté de notre Père. Parce que c'est ce que Paul priait, qu'on soit rempli de toute la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui dois nous enseigner toutes choses. C'est toi qui fais même rendre cette parole, Seigneur Dieu, comme une lumière. Que ça ne reste pas juste une information, des fois, trop dure à comprendre. S'il vous plaît, continue à nous éclairer dans cette vie de ténèbres. Merci de nous donner la vérité dans cette vie de mensonges. Afin que, Seigneur Dieu, on puisse être nourri de ton œuvre, Seigneur Jésus-Christ, de ta chair qui produit vraiment la foi, l'espérance et la joie, et de ton sang, que quand on a manqué notre coupe, qu'on reconnaît qu'on a péché, que tu puisses nous pardonner. Tu dis, celui qui confesse ses fautes, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, s'il vous plaît, renouvelle-nous, fortifie-nous, même si les temps sont étranges et qu'on n'est pas habitué à ça. Puis comme des gens en voyage, des fois, on a hâte de rentrer chez nous dans notre routine. Mais néanmoins, apprends-nous encore à marcher avec toi, même dans des temps bizarres. C'est trop trippant, Seigneur Dieu. C'est fascinant. Tu es trop merveilleux, Seigneur. Sois béni éternellement. Merci dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Bonne semaine bizarre, tout le monde.